Ok. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue ici à la Georges Brassens, c'est plus exactement à l'espace forum Claude Dunto pour ce qui est une des dernières rencontres de cette foire du livre de Brive 2021, où on va rendre hommage à nos amis les bêtes, aux animaux, avec deux auteurs qui les ont mis en scène dans leurs ouvrages respectifs, qui les évoquent de différentes manières évidemment et qui l'ont déjà fait dans le passé. On va donc parler de fourmis, d'abeilles, de chats, de lapins et d'autres créatures avec nos invités qu'on remercie de jouer le jeu de cette petite rencontre du dimanche. Tout d'abord Bernard Werber.
Bonsoir.
Bonsoir Bernard, vous avez publié il y a un petit mois votre tout nouveau roman. Vous êtes un habitué évidemment de l'automne littéraire, La prophétie des abeilles aux éditions Albin Michel. Mais derrière ce titre, il n'est pas seulement question des petites bêtes qui font bzzz et qui nous offre ce miel que moi j'adore, mais bon, ça c'est une autre question. Bref, et à ma droite, Stéphanie Hochet. Bonsoir Stéphanie.
Bonsoir.
Alors vous venez de faire paraître cet éloge du lapin aux éditions Rivage, qui n'est pas du tout un roman, disons-le, mais véritablement un éloge sur cette créature à grandes oreilles, et vous nous faites découvrir beaucoup de choses à la fois sur l'animal en tant que tel, mais aussi sur sa symbolique et sa place dans notre culture, et dans d'autres cultures d'ailleurs. Alors, avant qu'on évoque vos ouvrages respectifs, vos carrières en rapport avec l'animal dans vos livres, j'aimerais savoir si, de manière très générale, évoquer un animal, une race animale quelle qu'elle soit, c'est un bon moyen aussi de parler de l'humanité. Allez, Stéphanie. Question bateau, mais il faut toujours ouvrir avec quelque chose de très large.
Alors, en ce qui me concerne, oui, parce que là, je parle dans Éloge du lapin des représentations du lapin dans les arts, la littérature, la peinture, etc. Donc, je parle en fait de ce que les hommes perçoivent du lapin, de comment ils le mettent en scène et de comment ils le, en fait, comment ils le définissent aussi, c'est-à-dire aussi souvent ils l'ont souvent défini comme un adversaire, alors qu'il paraît tout petit, etc. Mais en me documentant beaucoup, je me suis aperçue que ce qui revenait souvent à propos du lapin, c'est qu'il y en avait soit trop, soit pas assez. Et je trouve que ça révèle quand même beaucoup de choses sur nous. Et puis que dire, c'est il y a toujours une part. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir en fait notre part animale, mais la part humaine aussi chez les animaux, et de me dire que cette frontière, elle est floue. On s'interroge beaucoup sur qu'est-ce qui est le propre de l'homme, par exemple, quel est le propre de l'homme, et c'est toujours assez vertigineux de s'interroger sur le propre de l'homme, compte tenu du fait que la science nous montre, on va dire, chaque année que les animaux sont capables non seulement de langage, mais aussi parfois de création artistique chez certaines espèces, voire certains grands singes, comme les bonobos peuvent rire, par exemple. Notre propre de l'homme est, on va dire, très instable. Et nous sommes aussi des animaux, biologiquement, désolé de vous l'apprendre, nous sommes des grands singes. Nous sommes tous ici des grands singes réunis, et nous allons parler des autres espèces, voilà.
Bon, alors je m'adresse au grand singe à ma gauche, à savoir Bernard Werber.
J'assume.
Pour vous, alors justement, est-ce que c'est un moyen de parler de l'humanité que d'évoquer les fourmis, les chats ou les abeilles ?
L'idéal, ça serait d'écrire le livre d'un langage non humain pour parler des humains. Mais vu qu'on s'adresse à un public humain, on est un peu forcé de rester en vase clos entre nous. En tout cas, il y a une règle que j'aime bien, le théorème de Gödel: pour comprendre un système, il faut s'en extraire. Donc pour comprendre l'humanité, il faut faire quelque chose de non humain. Et vu que je suis un humain, pour essayer de penser non humain, il faut juste que j'essaie de me projeter. Alors une des manières pour se projeter dans l'esprit d'un animal, ça consiste déjà à le regarder et de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il a l'air de penser de nous, de moi ? Alors l'animal qui se prête le mieux à cet exercice, c'est le chat. Le chat, il vous fixe vraiment et on voit qu'il réfléchit et qu'il a l'air de penser des trucs sur vous. Voilà, donc j'ai fait
une trilogie
sur les chats. Voilà, mais pour ce qui est des fourmis et des abeilles, c'est plus compliqué parce que le regard est un peu expressif. C'est des sphères avec des petites facettes. Même le regard du dauphin n'est pas très expressif. Il n'y a pas les paupières, les yeux de poisson expriment peu de choses. Mais le lapin, il raconte aussi des choses, je trouve. Quand on regarde un lapin, on a l'impression qu'il pense. D'ailleurs, je ne mange pas de lapin. Et je suis heureux que vous fassiez l'éloge du lapin, parce que c'est un animal qui mérite, je suis sûr, toute notre attention. J'avais lu Adams, Douglas Adams.
Oui, Richard Adams, oui, ah, que non, je cite, ouais. Hein, c'est une odyssée de lapin, oui, oui.
Et je crois que c'est intéressant que cet animal... C'est des animaux qu'on voit que comme de la matière première pour faire des plats. Et il y a un moment, quand même, il y a une cervelle, il y a une famille, il y a une vie. Et je crois que c'est intéressant de le replacer au centre, se dire, attendez, de son point de vue, c'est lui le héros du film, et nous sommes les figurants. Et voilà, c'est décentrer. L'intérêt, quand on parle des animaux, c'est décentrer, ne plus rester sur l'homme, mais essayer de voir autrement l'homme. Imaginons qu'il n'y ait aucun autre animal sur Terre que l'homme. On se ferait quand même un peu chier. Il n'y avait pas de chien, pas de chat, pas d'oiseau, pas de souris, pas de rat. On
imaginez qu'il n'y ait que des grands singes, justement.
Voilà, des grands singes. On serait quand même dans un univers triste.
Et malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer. Enfin, je ne veux pas aller trop vite, mais on est en train de détruire tellement d'espèces qu'on est en train de se retrouver un peu tout seul face à, on va dire, des espèces de plus en plus rares. Donc ça interroge aussi beaucoup, en fait.
Oui, et c'est un processus mental étrange. Il y a un livre que j'adore qui s'appelle Blade Runner, dans lequel dans le monde, il n'y a plus d'animaux, mais il n'y a juste que des robots. Donc, et les gens croient qu'ils sont l'unique vrai chat, l'unique vrai chien, l'unique vrai petit poney, cheval. Et en fait, quand il y a des accidents, il y a du faux sang à l'intérieur. Et c'est des animatroniques, c'est des robots qui sont exactement pareils que les vrais. Et tout le monde devient triste parce que, en fait, on a besoin d'avoir autre chose qu'un être humain. Et c'est pas à toi, Baptiste, que je vais l'apprendre. Toi qui vis avec 12 chats, quand même. Il faut
un peu moins, un peu moins quand même, mais voilà.
Plus une compagne.
Ça, c'est autre chose, enfin, voilà.
C'est une autre forme de vie, intéressante aussi. Mais les gens qui vivent avec des animaux vivent plus longtemps que les gens qui ne vivent sans animaux, ce qui montre bien qu'on a besoin des êtres non humains pour pouvoir comprendre notre humanité, pour répondre à ta question.
Alors, on va revenir justement sur les abeilles et sur ce qui est aussi... Enfin, je veux dire, c'est une accroche parce que le livre est beaucoup plus large, comme on le verra. On va revenir sur le lapin de Stéphanie Hochet, donc cet éloge du lapin chez Rivage, qui est un livre un petit peu hybride, parce que il évoque, évidemment, ce que j'ai dit, la signification du lapin dans la culture. Vous nous évoquez aussi les particularités de l'animal, mais c'est aussi votre découverte très subjective de, justement, cette créature aux grandes oreilles.
Oui, je raconte dans l'introduction comment je suis arrivée à m'intéresser au lapin et je raconte que, en fait, tout simplement, je le découvre plutôt à l'âge adulte, contrairement à beaucoup de gens, en fait, qui avaient des lapins, en fait, dans l'enfance. Alors, moi, j'en ai eu un dans l'enfance, mais j'étais tellement petite, ça a duré très peu de temps, il est mort rapidement et je me souviens du grand chagrin que c'était, mais en fait, rapidement, déjà, je suis passée au chat parce qu'il y avait beaucoup de chats à la maison. Enfin, c'est vrai qu'on a ça en commun avec Bernard d'avoir écrit sur les chats aussi, parce que j'avais un éloge du chat précédemment. Et puis, l'éloge du chat était une commande, mais éloge du lapin, c'est vraiment un désir, vraiment un désir très, très personnel qui est venu, donc, déjà après l'écriture d'éloge du chat, et je me suis intéressée à cette espèce tout simplement parce que un jour, j'ai sauvé un lapin qui était en grande détresse et je m'en suis occupée. Et moi, j'étais pas particulièrement attirée par les lapins, mais j'ai découvert cette espèce que j'ai trouvée juste passionnante.
Le
premier nom de ce lapin, je l'ai appelé Ragondin. Bon, mais bon, c'était un peu particulier, c'était un peu ironique, mais vous savez, il y avait des manifestations d'éleveurs à Paris à cette époque-là. Ils balançaient des ragondins, en fait, contre le ministère de l'Agriculture. Ils manifestaient de cette façon pour se faire entendre. Et c'était absolument poignant, je trouvais ça très choquant. Et d'une certaine façon, j'ai appelé mon lapin Ragondin un peu par provocation. Et aussi, je l'ai appelé avec beaucoup de tendresse Ragondin aussi. Voilà, donc... Et en m'occupant de ce lapin, j'ai découvert une espèce que j'ai trouvée fascinante. Déjà, je trouvais que ça communiquait bien avec moi, qu'il y avait une interaction très forte. Je trouvais ça drôle. J'ai découvert une façon de communiquer, une façon d'être en interaction. Je me suis vraiment, mais tellement attachée à ce lapin que je vivais vraiment avec ce lapin. Mais moi, en plus, écrivain, je travaille chez moi, donc on était toujours ensemble. C'est-à-dire que le lapin vient sous mon bureau, des petites caresses, etc. Il se manifeste, je vis avec lui complètement. Et puis, j'ai été parfaitement triste à sa mort. Il était très malade. J'ai adopté un nouveau lapin. Et j'ai voulu en savoir plus sur le lapin. Et donc là, j'ai commencé à faire des recherches. Et c'est des recherches qui m'ont emmenée, mais jusqu'à l'Antiquité grecque, en fait, parce qu'il y a des représentations dans l'Antiquité grecque de, on voit des vases, des amphores avec, alors c'est très amusant puisque ce sont des, généralement des hommes qui s'offrent un lapin. En fait, c'est l'Érasme et les Romaines. En fait, c'est un cadeau amoureux. Donc, du jeune homme à son parrain. Et donc, alors pour comment comprendre ce geste, comment comprendre le choix de cet animal, j'ai pas beaucoup d'explications. Enfin, il y a tout un livre qui a été écrit là-dessus par un historien, et il semblerait que voilà, c'était une manifestation, en fait, de l'agilité du jeune homme qui montrerait son affection à son parrain en lui offrant en fait un lièvre ou un lapin, parce qu'on ne sait pas trop différencier sur les représentations. Éloge du lapin, c'est aussi éloge du lièvre. Hein. Oui, j'ai pas pu m'empêcher de. Voilà, c'est les grandes oreilles. Ben, c'est le léporidé, comme on dit, c'est les familles de léporidé, c'est le lagomorphe. Voilà, donc, et j'ai été étonnée de tout ce qui était possible de trouver, en fait, dans la culture concernant le lapin. Et puis voilà, dans la peinture de la Renaissance, j'ai trouvé des choses, on va dire, très amusantes, parce qu'aussi très contradictoires. Parce que le lapin, il est à la fois là pour représenter la virginité, par exemple, souvent quand il est blanc. Par exemple, à côté de la Vierge, j'y représente la virginité. Alors, on voit dans des tableaux de la Renaissance italienne, etc. Et à côté de ça, il peut représenter, au contraire, l'érotisme.
Oui, justement. Ça, c'est un fil conducteur du livre. Vous montrez à quel point il est associé à la sexualité et à la sexualité débridée.
Ah, oui.
On a une petite idée des raisons.
Oui,
mais quand même,
oui.
Ça va parfois très loin.
Alors, propriétaire d'un lapin, je peux vous dire que je comprends pourquoi il est associé à l'érotisme. C'est vrai que c'est pas une réputation. Hein. Et cet animal est vraiment à la fois très contradictoire et en même temps notre façon de le traiter est assez contradictoire aussi, assez on va dire schizophrénique, c'est-à-dire qu'on le trouve très mignon, c'est la star des livres pour enfants, et à côté de ça, qu'est-ce qu'on le traite mal, c'est-à-dire on le met dans des cages, etc. Alors que c'est un animal qui communique énormément et qui dans la nature a besoin d'un grand espace, c'est un quasi-athlète le lapin, il est capable d'accélération extraordinaire, voilà. Et donc on l'associe donc à la fois aussi à l'enfance et à la fois on en fait l'emblème de Playboy. Donc il y a plein de choses paradoxales chez le lapin. Enfin, comment relier tout ça, comment considérer tout ça, ben, en s'interrogeant toujours, en cherchant toujours plus.
Vous prenez aussi le cas très particulier de la culture japonaise où il a une place très particulière.
Oui, alors il y a un pays qui adore les lapins, c'est vraiment le Japon, déjà parce qu'il est présent dans plusieurs contes, que ce soit de la culture shinto ou de la culture bouddhiste. En fait, on le retrouve dans plusieurs contes et des contes vraiment importants qui vraiment fondent, on va dire, la mentalité japonaise. Et ce qui est amusant, c'est que tous les enfants japonais savent que sur la Lune, il y a un lapin qui vit. Donc parce que si vous observez la Lune avec la forme des cratères, vous pouvez voir en fait comme des oreilles, des longues oreilles, et ils ont imaginé que c'était un lapin qui vivait sur la Lune. Donc il y a même des fêtes en fait, des fêtes annuelles où on fête en fait la Lune et on fabrique des mochis en forme de lapin, etc. En fait, il y a toutes sortes de festivités autour du lapin. On peut penser aussi aux petites japonaises qui s'habillent en bunny girls. C'est un animal qui est très apprécié aussi parce que ça a un côté mignon et les japonaises sont très sensibles au côté mignon. Ils aiment beaucoup les chats, ils aiment aussi beaucoup les lapins. Donc voilà, c'est vrai que c'est un animal qui est important pour eux et effectivement, ils ne le consomment pas non plus. Il y a des pays où on ne mange pas de lapin. Par exemple, l'Angleterre mange très peu de lapin aussi, je pense que jamais. Et effectivement, au Japon, on ne mange pas non plus de lapin. Après, il y a des religions, par exemple la religion juive, ça interdit la consommation du lapin aussi.
Bernard, vous pouvez confirmer, vous qui êtes quand même très populaire en Asie, notamment en Corée, voilà.
Confirmer quoi ? Qu'ils mangent pas de lapin ?
Non mais ouais.
Moi j'ai vu en Chine, ils bouffent tout. Hein.
Ah oui, en Chine.
Je pense qu'ils se bouffent même entre eux, parce que vu le...
On fait comme si on n'a rien entendu, Bernard.
non mais ils mangent des serpents, des crapauds, des chiens, les chiens surtout, les chats... voilà. J'ai une question à poser à Stéphanie. Les grandes oreilles, c'est pour percevoir les sons mieux ?
Oui, c'est ça.
Donc est-ce qu'ils perçoivent mieux les sons que les chats ?
Je pense que oui, puisque en fait la capacité vraiment de les diriger dans des directions différentes, un peu comme les chevaux. Ils ont beaucoup de points communs avec les chevaux, donc c'est-à-dire que ils peuvent entendre deux sons différents au même moment, donc et on voit que l'oreille va d'un côté et de l'autre. Donc
les chats peuvent pas ?
Un peu moins, je pense. Un petit peu, mais je pense que là, vraiment, ils peuvent vraiment... C'est comme des radars, en fait, chez les lapins. Et pensez aux chevaux qui ont vraiment cette attitude aussi, comme ça. Ce sont des proies, comme les chevaux. Alors que le chat est quand même un petit carnivore. Donc ils entendent, je pense que, alors je sais pas si j'ai entendu quelque chose comme ils entendent 20 fois ce que nous entendons, enfin ils entendent vraiment extrêmement bien. Donc c'est pour ça que généralement quand on a un lapin chez soi, on évite de mettre du rock à fond parce que ça le traumatise. Et donc ils sont effectivement très sensibles à certains bruits. Et alors c'est drôle parce qu'ils sont très sensibles surtout à des bruits furtifs. C'est-à-dire un bruit qu'il connaît pas ou qui va ressembler à quelque chose qui avancerait sur le sol, ça peut le terroriser, alors que des bruits de par exemple des coups de marteau, mon lapin est totalement indifférent. Donc c'est très amusant. Enfin.
Par ailleurs, dans le livre, vous ne pouvez pas vous empêcher, vous avez bien raison, d'évoquer les représentations du lapin, qu'elles soient picturales, cinématographiques ou bien sûr littéraires, avec quelques grands exemples de la littérature mettant en scène justement ces créatures.
Oui, alors c'est vrai, Bernard parlait tout à l'heure de, enfin, en fait, le livre, vraiment le chef-d'œuvre, en fait, qui parle des lapins, c'est un livre anglais.
Qui extrêmement a été populaire dans les pays anglo-saxons.
Oui, un best-seller, hein, vraiment, on est sur du méga best-seller. Enfin, on va dire que tous les Anglais connaissent, et les Américains aussi connaissent, Watership Down, qu'on a traduit plusieurs fois, en fait, en France, par d'abord les Garennes de Watership. Les Garennes de Watership Down, je sais plus, mais maintenant on a gardé le simple titre Watership Down comme le titre anglais, et en fait c'est l'épopée de lapins de Garennes qui perçoivent en fait le danger d'une, on va dire, il y en a un qui est visionnaire et qui convainc son frère qu'il faut partir parce qu'il va y avoir une catastrophe, et cette catastrophe c'est cette Garenne qui va être détruite. Et ces deux lapins tentent de convertir d'autres membres de leur clan, de les accompagner. Certains vont rester, d'autres vont les suivre. Et puis voilà, il y aura une série d'aventures. Ce qui est très particulier dans ce livre, c'est que l'auteur a inventé une langue lapin. C'est-à-dire, comme dans Tolkien, on va dire qu'il y a une langue typique du personnage. Et vous allez voir des mots de vocabulaire, en fait, qui sont des vocabulaires lapins. C'est absolument hallucinant. Donc il leur crée même des mythes, et donc voilà, c'est une série d'aventures, c'est absolument passionnant. Donc ça peut être lu par des gens assez jeunes, et moi, enfin voilà, en tant que personne adulte, enfin quoique, je veux dire, je l'ai découvert avec passion, et c'est une espèce d'œuvre hallucinante pour ça, quoi, le fait d'avoir mis en scène cette épopée. Et puis après, il y a d'autres auteurs qui
Le lièvre de Vatanen d'Arto Pasilina,
oui,
par exemple.
Oui, bien sûr, je parle beaucoup du. En fait, on a l'impression que la littérature parle beaucoup des lièvres, donc le lièvre de Vatanen, etc. Où là, on y a presque une espèce d'osmose entre l'écrivain et le lièvre. En fait, c'est un. Bon, vous connaissez sûrement, mais en fait, moi, il y a des auteurs en fait qui me plaisent encore plus. C'est par exemple, c'est Maurice Genevoix qui a écrit des pages magnifiques dans Les Bestiaires sur les lapins de Sologne. Et en l'occurrence, juste une petite anecdote. Donc Maurice Genevoix avait fait la Première Guerre mondiale, il était lieutenant, c'est lui qui a écrit 14, il était revenu avec des textes bouleversants sur la Première Guerre mondiale, et il avait été très marqué par les soldats en fait qui avaient été blessés et qui poussaient des cris épouvantables au crépuscule, hein, au moment où les douleurs se réveillent encore plus fort. Et il raconte, en l'occurrence dans Les Bestiaires, que parcourant la campagne, lui qui avait l'habitude de voir depuis qu'il était tout enfant en fait les lapins qui en fait égayaient tout le monde, parce que tout le monde est égayé par en fait des sauts de lapins, etc. C'est des petits bonds, c'était amusant, etc. Et bien soudain, en fait, il entend les lapins crier. Eux qui sont à faune se mettent à crier. Et ça lui rappelle les scènes des soldats, en fait, enfin, ces soldats de la Première Guerre mondiale qu'il a connus et qui hurlaient au crépuscule. Les lapins dont je parle étaient atteints de myxomatose. Donc cette maladie qui a été diffusée volontairement dans les années 50 pour éradiquer le lapin. Donc ça a marché, hein. Le lapin sauvage est en voie de disparition quasiment, pour ainsi dire, en ce moment.
En tout cas, voilà. On apprend énormément de choses sur cet animal, sur, encore une fois, des domaines bien, bien différents dans cet éloge du lapin. Bref, efficace, très riche, de Stéphanie Hochet, donc chez Rivage. Bernard Werber, maintenant, je vais me tourner vers vous avec cette prophétie des abeilles. Alors franchement, Bernard Werber, qu'est-ce que les abeilles nous apprennent sur notre futur? En tout cas, ce que vous imaginez?
Déjà, elle nous apprend une chose sur notre passé. Les abeilles étaient sur Terre il y a 120 millions d'années. L'homme est au mieux, tout à l'heure on parlait des grands singes, c'est 3 millions d'années, donc ça fait quand même 117 millions d'années de plus pour les abeilles. Donc, a priori, elles connaissent mieux la planète que nous. Ce qu'elles peuvent nous indiquer, c'est déjà leur forme de société qui est assez harmonieuse. Je ne sais pas s'il y a des apiculteurs dans la salle. Il y en a plusieurs qui sont venus me faire des dédicaces. Oui, alors voilà. Et quand c'est un système qui marche, c'est-à-dire tout le monde a l'air bien. Le seul problème, c'est l'homme qui met des engrais, des insecticides. C'est l'homme qui fait venir le frelon asiatique, d'ailleurs dans la région. Et l'homme qui fait venir aussi le varon chinois. Donc c'est un système parfait, adapté à la nature, dans lequel tout le monde se sent bien à l'intérieur. Et s'il n'y avait pas l'homme, s'il n'y avait pas le frelon asiatique, ça serait une société idéale. Donc, c'est ce qui m'a semblé. Donc j'essayais de voir comment on pourrait imaginer que nous, humains, nous tirions des leçons de l'observation des abeilles. Et au moment où j'écris le livre, je ne savais pas qu'Aristote avait basé tout son enseignement sur l'observation des abeilles. Mais c'était la bonne surprise. Du coup, je me dis, parce qu'on connaît tous Aristote, mais on ne savait pas qu'Aristote était sur les abeilles. Donc je me suis dit, voilà la preuve. Et Aristote était le professeur d'Alexandre le Grand. Et Alexandre le Grand, c'est le premier type qui a bâti un empire à taille planétaire. Donc on peut se dire, voilà quelqu'un qui a été formé par quelqu'un qui a été formé par les abeilles, et le résultat est assez efficace. Donc je pense que nous avons des solutions à tirer de l'observation des abeilles.
Alors, ce livre, avant tout, c'est un vrai thriller ésotérique, si on aime le genre. Encore une fois, vous avez pris les règles du genre pour néanmoins réussir un livre personnel où vous mettez vos obsessions, où on retrouve d'ailleurs quelques-uns des personnages qu'on a pu croiser auparavant dans votre œuvre, notamment René Toledano. Justement, qui est René Toledano, pour ceux qui ne le connaîtraient pas?
Alors, René Toledano, mon héros, est un prof d'histoire qui, à force de s'intéresser à l'histoire, commence à avoir des doutes sur tout ce qui est raconté dans un livre d'histoire, parce qu'il est conscient que ce qui est raconté dans un livre d'histoire, c'est raconté par des biographes qui sont des gens qui sont payés le plus souvent par les rois ou par l'Église. Donc, ils ne racontent pas forcément ce qui s'est réellement passé, mais ceux qui arrangent le roi, en tout cas ceux qui arrangent leur commanditaire. Et à partir de là, il va utiliser l'hypnose régressive dans les vies antérieures pour aller voir autrement que dans les livres d'histoire ce qui s'est passé. Donc il invente une machine à remonter le temps qui fonctionne qu'avec la pensée, donc il n'y a aucune technologie, c'est que de la méditation.
Mais encore une fois, si grâce à la technique utilisée par René Toledano, on peut aller dans le futur, on peut aller dans le passé, on peut également aller dans le futur, et cela peut réserver de bonnes ou moins bonnes surprises, comme le prouve le début de votre livre.
Oui, je pense que notre cerveau est un outil qu'on commence à peine à utiliser, parce que notre génération est la première à sortir de la peur de la guerre et la peur de ne pas manger. On a juste la peur du Covid, ce qui est gérable. Nos ancêtres avaient la peur de la peste, c'était quand même bien pire. Et vu qu'on est la première génération sereine, on commence à utiliser notre cerveau pour faire autre chose que accumuler des biens et de la richesse, mais penser notamment à le futur de notre espèce, voire à une autre manière de communiquer et entre nous et avec les autres espèces animales.
Alors justement, il y a une expérience qui va mal se passer au tout départ et qui va plonger René dans un destin inattendu.
Alors, vu que c'est le principe, comme tu disais, du livre d'aventure ésotérique, il faut que je crée des problèmes pour qu'il y ait du suspense et pour que les gens aient envie d'avancer. Si je fais un livre où tout le monde s'entend bien et où tout va bien, vous allez vous ennuyer.
On risque rapidement de s'ennuyer, en effet.
Voilà. Et donc il faut que j'invente des problèmes, mais moi je fais aussi des séances d'hypnose régressive, j'ai un spectacle qui tourne à Paris.
J'ai vu, et c'est assez surprenant et assez édifiant en tout cas,
et
dans le sens du terme.
Pour l'instant, en tout cas, mes spectacles, il n'y a personne qui a eu de problème. Je touche du bois que j'en trouve pas.
C'est du bois, si on va dire ça.
Mais c'est n'importe qui peut fermer les yeux et utiliser son imagination pour... se projeter dans quelque chose, et l'hypothèse que je prends en livre, c'est qu'on peut peut-être se projeter dans quelque chose qui n'est pas que de l'imagination, mais qui est peut-être un fonctionnement autre de la pensée, qui est évoqué d'ailleurs par Nostradamus notamment, et par des tas de gens qui ont utilisé des techniques de pensée pour pouvoir se projeter dans le passé et le futur.
Mais quelle est donc la prophétie qui est au cœur de ce livre? D'où vient-elle plus exactement?
J'ai avoir du mal à résumer tout le livre, mais
nous sommes à quelle période en tout cas? Il nous ramène à quelle période?
Je pars d'une hypothèse romanesque que c'est une sorte de message de sagesse qui prendrait sa source, qui serait écrit en 1099 à l'époque de la prise de Jérusalem par les croisés, mais que ce texte lui-même se référerait à quelque chose de plus ancien qui remonterait jusqu'à Akhenaton, qui est le premier pharaon à sortir du culte du polythéisme des dieux à tête d'animaux, justement, pour passer au culte du soleil, qui m'a l'air un clivage important dans la société humaine, c'est-à-dire qu'il y a une guerre entre ceux qui sont polythéistes, le culte d'Amon et le culte d'Aton, mais on ne va pas rentrer du tout dans ce détail, mais je veux dire que ça pourrait être très ancien et remonter à l'Égypte antique. Et que déjà à l'Égypte antique, on voit une utilisation énorme du miel, notamment comme médicament. Et on utilise la cire pour faire toutes sortes. Ça servait. L'homme, quand il a découvert la ruche, s'est aperçu qu'il y avait 10 000 usages de la ruche en dehors du miel, notamment la récupération de la cire pour faire de la colle, mais aussi la récupération de la gelée royale pour faire une sorte de super médicament, et la récupération du propolis. Tout ce que l'abeille sait faire chimiquement, l'homme ne sait pas le faire. Parce que ça demande des hormones que nous ne savons pas fabriquer. Donc l'abeille est inégalable, et si elle disparaît, on ne pourra pas la remplacer.
Mais Bernard, dans le livre, justement, vous explorez aussi la question des Templiers, qui a donné lieu, j'allais dire, à un véritable courant littéraire de la littérature populaire. Est-ce que, à titre personnel, vous étiez un gros lecteur de cette littérature autour des Templiers ?
Non.
Alors pourquoi écrire sur un tel sujet alors? Ou en tout cas, vous ancrer dans ce genre et dans cet univers?
Parce que par contre, je m'intéresse aux Templiers en tant que... alors, donc, j'ai pas lu de roman sur les Templiers, mais je m'intéresse aux Templiers en tant que source des ésotérismes et notamment de tous les... Comment dire? De tous les ésotérismes modernes, que ce soit la franc-maçonnerie, que ce soit les Rose-Croix, que ce soit... tous les groupes de spiritualité moderne, il y a un moment où ils se réfèrent, où ils s'intéressent aux Templiers, et qu'à mon avis, les Templiers, on ne sait pas encore très bien ce qu'ils ont fait, et j'ai essayé d'éclairer un peu le chemin, mais déjà, l'une des voies d'explication, c'est le mot Templier lui-même, c'est les chevaliers du Christ et de l'ordre du Temple de Salomon, c'est de là que vient le mot Templier, et le Temple de Salomon, ça a été construit par un monsieur qui s'appelle Hiram. Et Hiram, c'est l'homme qui est à l'origine de tous les ésotérismes. Et ça s'est passé en l'an 1000 avant Jésus-Christ. Et c'est cette période que je suis allé visiter.
Alors, René Toledano, dans votre roman, va devoir enquêter sur une prophétie en particulier, mais qui, au départ, aurait pu être tout à fait une supercherie. Supercherie éditoriale. On n'est pas très loin dans le livre, donc on peut le dire.
Oui. Non, mais il y a une des problématiques, c'est est-ce qu'on peut prévoir le futur? Est-ce que quelqu'un en 1099 pouvait trouver qu'est-ce qui allait se passer en l'an 2000, voire après notre époque de 2021? Et c'est l'une des problématiques, c'est comment certaines personnes ont-elles pu annoncer le futur? Mais c'est aussi, tout à l'heure je faisais l'évocation de Nostradamus. Nostradamus, c'est 1500. Mais en 1500, il a quand même annoncé, il a dit, voilà, je vois et je sais, il va se passer ça et ça et ça à quelle époque. Je me suis dit, comment quelqu'un peut faire ça? De nos jours, on n'a pas de prophète en 2021. Il n'y a personne qui dit, attendez les gars, j'ai eu une illumination dans la nuit, je sens qu'en 2030, il va se passer ça, en 2050, on va arriver enfin à soigner le Covid, et après avoir une vision un peu comme ça du futur. Personne ne s'autorise à faire ça, mais à l'époque, ça se faisait beaucoup. À l'époque de Nostradamus, il y avait au moins une trentaine d'autres prophètes, enfin de gens qui faisaient des prophéties. Et à l'époque de Daniel, donc Daniel qui a fait la prophétie de Daniel, il y avait aussi une trentaine d'autres bonhommes. Mais on a retenu certains, on en a oublié d'autres. À l'époque de Jésus-Christ, il y avait 140 messies, 140 personnes qui se disaient messie. On a retenu un, parce que c'est celui qui a le mieux communiqué, qui a le mieux écrit sa légende. Mais il y avait d'autres types qui se sont fait crucifier aussi, et puis tout le monde s'en fout, parce qu'ils n'ont pas bénéficié de la com' qu'a fourni Saint Paul. Mais Mais c'est bien de resituer. On croit que ces gens sont uniques. Ils sont pas uniques. Donc voilà. Vous ne savez pas qu'il y avait autant de messies ?
Eh ben, si,
il y en a apparu d'autres, hein, mais même encore maintenant, il en apparaît. Alors, suivez bien. Quand vous regardez les petites informations, là, vous voyez, tout d'un coup, on découvre un groupe spirituel. Et bon, voilà.
Qui pourrait être l'auteur, a priori, de cette prophétie dans votre livre ?
Ah, je ne peux pas révéler trop de choses, là.
Qui on peut imaginer, encore une fois, à l'origine ?
Non, j'ai peur de me lancer à révéler trop de choses du livre. Je préfère garder le mystère.
Oh, bon, comme vous voulez, Bernard, en tout
le
cas.
Le mystère de la prophétie. Non, j'ai peur, là. Est-ce que j'ai peur d'en dire trop et de gâcher le plaisir ?
Oui, parce que, alors, c'est un livre très feuilletonesque. Précision.
Non, c'est toute une mécanique. Et si j'explique un rouage en,
avec hors des jeux contexte, temporels.
Voilà,
avec...
hors contexte, j'ai peur que ça déroute les deux ou trois personnes qui vont lire le livre parmi l'assistance.
Et on va découvrir la méthode d'investigation très particulière de René Toledano
oui,
aussi.
L'hypnose régressive, tu veux dire ? Oui, l'hypnose régressive, c'est quelque chose que j'ai testé. Et on n'est pas obligé d'y croire, mais en tout cas, c'est distrayant. S'il y a des gens qui veulent venir, ce que je disais, le tester, ils peuvent le tester. Je le fais à Paris, mais une fois par mois. Mais moi, je trouve amusant d'aller visiter ces vies antérieures. Maintenant, la plupart des vies, on s'aperçoit, elles étaient plutôt nulles. Parce que dans le passé, en fait, les gens s'ennuyaient beaucoup, voyageaient pas, étaient souvent malades et ils mouraient vers 40 ans. Oui,
oui, mesdames.
Alors, on va vous donner un micro.
Oh non, parce que j'ai pas parlé.
Alors, attendez. Elle me demande si c'est moi qui le fais. En fait, moi, je guide exactement comme on fait la plongée sous-marine. Je prépare les gens à le faire. Je leur explique comment ça va se passer. Et après, je leur dis, 1, 2, 3, fermez les yeux. Et là, ferme les yeux ceux qui veulent et garde les yeux ouverts ceux qui ne veulent pas. Puis je leur dis, maintenant, visualisez un couloir avec des portes qui sont vos vies antérieures. Maintenant, ouvrez une porte et vous allez voir derrière s'il y a quelque chose ou pas. Alors la première fois qu'on me l'a fait, que j'ai trouvé ça génial, ça devait être il y a plus de 20 ans. Et moi, je le pratique en spectacle depuis 3 ans. Mais c'est une fois par mois, donc c'est vraiment... c'est pas un spectacle... c'est pas comme si je le faisais tous les jours ou toutes les semaines. Et puis, je vous avouerai, quand je le fais, je dois sentir toute la salle, donc ça m'épuise un peu. Et je dois le guider. Mais c'est exactement comme un guide de plongée sous-marine. Et c'est du tourisme. C'est pas pour réparer ou c'est pas pour aller se retrouver à faire la guerre. Hein. C'est fait pour se retrouver à vivre des moments sympas.
Voilà. Alors, justement, pour que vous puissiez dédicacer, on va un petit peu abréger et je vais vous laisser la parole, si vous avez, puisque justement vous vous êtes permis de prendre la parole, vous avez tout à fait eu raison. Si vous avez des questions à poser à nos invités, n'hésitez pas, ils sont là pour vous, naturellement.
Moi, j'ai une question pour Stéphanie.
Ah bon.
Est-ce que tu as déjà mangé du lapin ?
Malgré moi, quand j'étais petite... la dernière fois, je devais avoir 12 ans et c'était pas mes parents, mais les gens qui devaient s'occuper de moi m'avaient préparé du lapin et je me souviens parfaitement de l'avoir mangé à contre-cœur et je me souviens d'avoir été choquée de manger du lapin et j'en ai plus jamais mangé. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose de tellement choquant en fait. Peut-être qu'on partage pas tous cette appréhension ou cette gêne. Mais le fait est que j'ai jamais, alors que je suis devenue végétarienne bien plus tard, hein, mais donc je mangeais d'autres animaux. Et je sais pas pourquoi le lapin, j'ai pas pu continuer. Il y a d'autres gens, hein, que j'ai rencontrés comme ça qui mangent de la viande mais qui peuvent pas avec le lapin. Donc oui, j'ai malgré moi à 12 ans, mais c'est plus jamais après quoi. Ouais. Et du coup toi-même jamais ?
Alors moi j'ai le même blocage que toi quand on m'a proposé du lapin. Je n'ai jamais mangé de lapin. Et j'ai vu des gens notamment en Afrique du Nord, qui mettaient sur des broches, qui faisaient cuire des chats, ouais. Et qui le mangeaient, et qui m'ont dit que ça a le même goût que le lapin.
Donc, c'est ce qu'on a dit pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi, c'est que les gens mangeaient du chat en faisant croire que c'était du lapin.
Mais moi aussi, je deviens de plus en plus végétarien, mais je mange du poisson, et je mange encore du poulet. Et je dois avouer que j'ai découvert depuis peu de temps que les poulets étaient très sympas, C'est des animaux, ce qui me pose un petit problème. Ils sont intelligents, ils sont sympas, et les gens qui vivent avec des poulets sont pas mal, enfin des poules pour être précis, sont pas malheureux. C'est une vraie présence.
Mais un prochain livre sur les poulets, parce que je crois qu'en plus ils savent faire des calculs. En fait, apparemment,
oui,
ils savent faire.
Oui, avec le bec. Voilà. Mais de manière générale, dès qu'on s'intéresse à un animal, normalement, on devrait plus pouvoir le manger. Et puis il faut savoir quand même que nos ancêtres étaient cannibales, il nous en reste encore des traces, donc on est sorti du cannibalisme. Peut-être qu'à un moment on verra le fait de manger de la viande comme une forme de comportement primitif de ce qui reste en nous de singes, de grands, puisqu'on peut faire le lien avec les grands singes. Mais moi je mange de viande, plus les rares fois où je mange de la viande ça me fatigue. Je sais pas si ça te fait cet
effet-là. Il paraît que c'est un effet de la viande, en fait. Effectivement, il y a des gens qui ont constaté ça, c'est que ça a un effet fatigant, en fait, sur l'organisme. Après, moi, je suis pas biologiste et tout, ou spécialiste en nutrition, mais je pense que ça a un lien. Et j'ai oublié ce que je voulais dire après.
Bon, bref. On parlait de manger de la viande.
Mais oui, je voulais parler de ça, c'est qu'il y a des penseurs, par exemple Léonard de Vinci pensait aussi qu'on embrasserait totalement l'humanité quand on arrêterait de manger aussi nos camarades animaux.
Donc, il était végétarien.
Oui, il était végétarien. Il y en a quelques-uns célèbres parmi, et Léonard de Vinci quand même le plus célèbre.
Alors, une question dans le public. Oui, deux questions. Voilà, monsieur devant et après juste derrière. Voilà, et après nos invités auront quelques minutes pour dédicacer leurs ouvrages. Monsieur.
Pouvez-vous nous dire pourquoi les marins n'aiment pas prononcer le mot lapin quand ils sont sur leur bateau?
Oui, alors c'est très amusant. Alors j'ai découvert beaucoup de choses. Alors je savais, hein, parce que je viens d'une famille qui pratique un peu la navigation, et je savais qu'on ne pouvait pas prononcer le mot lapin. Donc c'est-à-dire dès qu'on est sur un bateau, surtout en France, hein, parce que c'est pas forcément comme ça dans d'autres pays, et pour les Français, effectivement, on utilise des périphrases. Donc on n'a pas le droit de prononcer le mot lapin qui porte malheur. Donc et on utilise d'autres mots. Alors on appelle le lapin le cousin du lièvre, ou alors l'animal aux longues oreilles, ou alors ce que je trouve croustillant quand même, la langoustine des prés.
La langoustine des prés.
Et ça, c'est un écrivain de la marine qui me l'a appris. Et c'est un camarade avec qui j'ai l'habitude de converser et qui effectivement m'a appris ce terme-là. Alors pourquoi? Moi, je ne peux qu'imaginer pourquoi. Vous savez, les lapins, ils ont une grande utilité de leurs dents. Ils les utilisent beaucoup. Et c'est assez efficace contre pas mal de choses. Les bateaux étaient en bois, il y avait des cordages, etc. On imagine bien qu'ils ont été peut-être à l'origine de certains accidents, voire naufrages. En tout cas, l'animal a perturbé, voire traumatisé les marins. Ça, c'est certain. Donc, une toute petite bête qui peut nous faire des catastrophes, en fait.
Monsieur, avec le masque vert, nous vous écoutons.
Bonjour. Vous avez parlé de Léonard de Vinci, de prophéties. Et justement, il y a un livre sur les prophéties de Léonard de Vinci qui est sorti, enfin, j'imagine que vous l'avez lu, peut-être. Il y a des choses étonnantes dedans.
Non, il me demande si j'avais lu, non, je ne lis pas.
Ben, lisez-le. C'est okay, étonnant, il y a des choses étonnantes dedans.
Il a prévu quoi? Par exemple,
comme ça, vous pourrez le découvrir.
Ok, bon, ben,
ce sera le suspense.
Je vais regarder.
Et en fait, ma question, c'était, j'aurais voulu avoir votre avis sur le transhumanisme, c'est-à-dire la tentative de version améliorée de l'être humain par... voilà.
Oui,
par la technologie, enfin voilà, par l'amélioration.
Oui, c'est un mot, c'est-à-dire c'est la mode de certains mots là.
C'est un mot un peu fourre-tout.
Il y a métaverse maintenant, les gens me disent qu'est-ce que je pense du métaverse, qu'est-ce que je pense du transhumanisme.
Dans Troisième Humanité, vous aviez évoqué une partie de ces questions,
par exemple. Oui, de toute façon, là, on voit bien que la médecine est en train d'essayer de nous rendre immortels. Deux, on voit bien qu'il y a l'intelligence artificielle qui est en train de nous aider dans plein de domaines. On voit bien aussi qu'il y a des prothèses pour tous les gens blessés, pour les gens aveugles, pour ça. Donc il y a un processus qu'on mette derrière le mot, je ne sais pas si c'est comme ça que vous l'entendez, mais qu'on mette le mot derrière transhumaniste, c'est-à-dire un humain qui est en train d'être transformé par la technologie, ça fait longtemps qu'on en parle. Il y a... Même Jules Verne, à son époque, évoquait les progrès de la technologie, comment ils pourraient être intégrés dans le corps. C'est juste une. Alors, il y a le mot humanisme qui signifie une volonté de prise de conscience de notre statut d'humain. Transhumanisme, ça veut dire aller au-delà de ça. Après, maintenant, ça, c'est une manière d'imaginer l'homme du futur. Juste une chose, je pense que nous sommes notre génération, la génération qui est en charnière, qui est en train de préparer le meilleur ou le pire. Et tout simplement parce qu'on a les infos. Nos ancêtres, ils pouvaient dire, ah, on ne savait pas ce qui se passait en Chine, on ne sait pas ce qui se passait dans le pôle Nord, on ne savait pas ce qui se passait. Nous, on sait ce qui se passe partout. On a une vision de la planète avec les satellites. Donc le fait qu'on sache ce qui se passe partout, c'est nous qui allons décider par nos votes, on désigne les gouvernements sont censés cristalliser notre pensée, et après les gouvernements se regroupent pour former l'ONU et prendre les décisions, nous sommes en train de décider de l'avenir de la planète, telle qu'elle, on est en train de la détruire. Maintenant, il y a le COP26 qui est en train de se passer. Donc ce qui se passe actuellement, historiquement, est très très important. Et entre nous, je suis pessimiste sur le court terme et optimiste sur le long terme. Je crois que toutes les bêtises qui peuvent être faites vont être faites pour une raison simple. C'est que ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est si vous ne voulez pas de réchauffement climatique, vous ne voulez pas de pollution, vous ne voulez pas d'hégémonie de la Chine, vous ne voulez pas terminer en esclave et tout ça, c'est simple, il faut arrêter de consommer. Et est-ce que les gens sont prêts à entendre ça? Vous voulez pas qu'il y ait de pollution, arrêtez de faire vroom vroom avec votre voiture, circulez en vélo. Vous voulez pas qu'il y ait les forêts entières qui soient dévastées, bah arrêtez de consommer des produits avec du bois, arrêtez de prendre des baguettes jetables, tous ces trucs jetables. Il y a bien un moment, ça vient de quelque part, et bien un moment, c'est jeté dans notre endroit. Donc est-ce qu'on est prêt à nous arrêter de consommer pour préserver la planète et les générations futures? C'est ça qu'on devrait faire en plébiscite. Êtes-vous prêt à ralentir la consommation, donc la croissance, donc aussi votre progression de pouvoir d'achat indirectement? Est-ce que vous êtes prêt à renoncer à tous ces conforts et tous ces plaisirs dans l'intérêt collectif? Et ça, pour l'instant, vu que ce n'est pas présenté comme ça, on dit aux gens, regardez, ça serait bien qu'on jette à gauche et à droite les ordures bleues dans les ordures plastiques dans la poubelle bleue et les ordures papier dans le... Mais ça ne suffit pas. Et puis, un autre élément, c'est qu'il faudrait réduire entièrement, passer à l'autorégulation de l'espèce. Même les lapins, quand ils sont en liberté, au bout d'un moment, ils arrêtent de se reproduire quand il n'y a plus de matière première. Et l'homme continue de se reproduire de manière exponentielle. On est en train de passer à 8 milliards, on va être bientôt 10 milliards. Et il semble que rien ne puisse arrêter cette machinerie. Et à ce moment-là, je ne vois pas comment on pourrait ne pas détruire la planète, puisqu'il va falloir nourrir toutes ces personnes. Voilà. Donc, arrêter la consommation et l'autorégulation, qui sont deux choses que n'évoquent même pas les écologistes, c'est la seule manière, à mon avis, de sauver la planète.
Voilà. Merci pour ce constat pessimiste. Donc, Bernard, si j'ai bien compris, n'achetez pas, ne consommez pas, n'achetez pas la prophétie des abeilles.
Oui, il faut ressembler aux abeilles, Il faut cette intelligence collective comme les abeilles, en fait, d'une certaine façon.
L'intelligence collective,
ouais. Les abeilles s'arrêtent de se reproduire dès qu'il y a suffisamment d'individus par rapport au nombre de fleurs qu'elles peuvent consommer. Même les fourmis, pareil. C'est-à-dire, toutes les espèces, même les plantes. Les plantes arrêtent, changent de sexe quand il n'y a plus suffisamment d'eau ou de lumière. Nous sommes les seuls qui, pour des raisons culturelles et traditionnelles, avons une croissance exponentielle. Et il me semble que ça serait bien de réfléchir à ça.
En tout cas, les ouvrages peuvent nous aider à la réflexion, justement. Et avec le plaisir de les lire en plus. La prophétie des abeilles, donc, de Bernard Werber chez Albin Michel. Et l'éloge du lapin de Stéphanie Hochet chez Rivage. Vous avez quelques minutes pour, encore une fois, reprendre la direction de votre stand. Le L30 pour Stéphanie, le L2 pour Bernard Werber. Voilà, ils sont encore là quelques minutes avec vous. Passez une très bonne fin de journée ici à Brive. Et puis, bon, de toute façon, à l'année prochaine. Voilà. Merci à tous. Tiens, hop.